qui s'appelle Insula, donc qui est dirigé par un pianiste martiniquais qui s'appelle Maher Borois. Mmh. Et le projet en fait est un hommage à Frantz Fanon. Bon, j'ai peut-être été qui est Frantz Fanon, hein, non, mais en gros, voilà, ça retrace les passages en fait des ouvrages de Frantz Fanon, et on met en relation musique d'Algérie, musique de la Martinique et de la Caraïbe, avec de la musique contemporaine, du jazz, et tout ça, c'est écrit par Maher Borois, et c'est magnifique. On est 10 sur scène, et on s'éclate trop, on a fait des scènes nationales, c'est génial.
C'est super.
Voilà, et bon, il y a peut-être d'autres projets, mais là, après, je fais beaucoup de manouches aussi, j'adore ça.
Alors, est-ce qu'on va pouvoir te voir en concert, bientôt?
Oui, alors, avec Tubers Band, nous serons en concert le 25 septembre à Chouchou Charbon. Ouais. C'est une petite buvette vers 19e, 20e, quelque chose comme ça, dans un parc. Voilà.
D'accord.
Et le 6 novembre, nous jouons, normalement, jusqu'à preuve du contraire, mais je crois que c'est bon, c'est confirmé. Nous jouons au Biscore Night Festival, qui a lieu, et je pense que ça pourrait t'intéresser. Mmh. C'est un festival dédié aux musiques progressives. Ah. Et ça a lieu à la salle François Rabelais, c'est MJC François Rabelais à Savigny-sur-Orge.
Très bien, super.
Voilà, et ça va être une très bonne soirée, je le sens bien. Il y a des très bons groupes qui passent. J'y suis allé là, l'année dernière, et il y avait du Zeul, il y avait des groupes de jazz rock, il y avait du mat rock. C'était très, très éclectique, très cool.
Eh ben merci pour le tuyau.
Voilà.
Eh ben merci à toi, Antoine.
Ben merci à toi beaucoup. Merci à Radio Libertaire pour l'interview. C'est d'enfer. Keep on going.
Dans quelques instants, la rage dedans. La semaine prochaine, pas d'oreilles libres, mais nous serons à l'écoute de Radio Libertaire depuis la manifestation parisienne du 1er mai pour les 40 ans de l'émission Epsilonia. Il s'agira de platinisme avec Jean-Claude Redoul, Samon Takahashi, Jean-Jacques Palix. Dans 15 jours, une émission thématique spéciale, guerre à la guerre. On se quitte avec Two Birds Band, Top of the World. Allez, à la semaine prochaine.
Yeah.
Dans 15 jours. Allez, salut, salut Antoine.
Ciao, merci beaucoup.
Et restez à l'antenne pour la rage dedans.
Say there, did you hear the news? Psycho worked at trimming shoes. Van Zetti was a peddling man, pushed his fish cart with his hand. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Psycho and Van Zetti are gone. They left me here to sing this song. Psycho's born across the sea, somewhere over in Italy. Van Zetti born, appearance fine, drank the best Italian wine. Psycho sailed to sea one day, landed up in the Boston Bay. Van Zetti sailed the ocean blue and landed up in Boston too. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interrogez les rues d'un gars sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tard, cela peut arriver au prophète, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je jouais le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, calissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. D'un rythme de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'un âne avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance. Il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter du futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de La Rage dedans, nous sommes de retour après 15 jours d'absence. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter un jeune homme, Amine Messal. Amine, bonjour.
Bonjour.
Né en 1998, mais quel parcours! Je voudrais que tu te présentes parce que tu as écrit un premier essai, coup de poing, Et si vraiment tu continues sur ta lancée, si on va écouter ton parcours, tu es promis à un brillant avenir. Alors Amine, présente-toi à nos auditeurs.
Ouais, ben merci pour l'invitation, Mariama, pour cette pré-présentation dithyrambique. Mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel. En fait, moi, je viens de la classe moyenne basse. Je fais mon lycée à Toulouse et je suis épris des mathématiques à l'époque. Je veux absolument faire de la recherche en mathématiques et je me fais un peu percuter par l'enjeu écologique, comme beaucoup de gens de ma génération. Hein. C'est l'époque de Greta, de la grève pour le climat et tout ça. Et peut-être dire que quand même je sortais pas non plus de l'œuf, parce que j'ai une maman qui est, comment à la décrire en deux mots, une grande syndicaliste, on peut dire ça comme ça. Elle envoyait beaucoup d'employeurs au prud'homme. Mais j'ai très vite eu une vision politique des enjeux qui m'entouraient, et notamment l'enjeu écologique. Voilà, je l'ai immédiatement vu comme quelque chose de qui avait trait au rapport de pouvoir et de domination et de justice environnementale. Et donc je me dis, bah, les maths, ça va me servir à quoi dans tout ça? Donc je continue vers une école d'ingénieur. À l'époque, naïvement, je pensais que j'allais servir...
la cause?
Ouais, avec mes maths. Et puis j'ai une désillusion qui... Je tombe pas de trop haut quand même, parce que j'avais pas énormément d'attentes pour ces écoles-là, mais je suis assez déçu de l'absence de réflexion sur les structures socio-économiques qui nous entourent. Alors, l'ingénieur, aujourd'hui, on le forme en France à résoudre des problèmes, mais jamais à remettre en
cause le système.
Ouais, en question, même l'énoncé du problème, en fait. C'est-à-dire, on va faire des voitures électriques, par exemple, mais pourquoi on changerait pas l'aménagement du territoire qui nous oblige à bouger en voiture, par exemple? Donc, c'est le genre de questions qui ne sont absolument jamais abordées. Et donc, très vite, je me dis, allez, il va falloir que je fasse un petit peu sérieusement ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire lire de la théorie et m'intéresser aux structures socio-économiques, mais d'un point de vue vraiment académique cette fois. Donc là, je vais me former en socio, en géographie, en éco, je repasse des concours, j'atterris à Normale Sup, et là, je me dirige vers une thèse en économie politique, justement. Voilà, pour le parcours académique, c'est ça. Et puis sur le côté, j'ai toujours, voilà, comme je t'ai dit, été... J'ai toujours voulu joindre un peu ma théorie et mes réflexions, l'évolution de la manière avec laquelle je me représentais le monde qui m'entoure, avec de l'action. Et voilà, déjà au lycée, j'avais bloqué mon lycée contre la loi El Khomri, je me rappelle.
Ouais.
Ma maman enchaînait les CDD avec des périodes de chômage et tout ça. Et donc moi, j'ai très vite politisé le truc et j'ai très vite compris que ça s'appelait l'augmentation de la domination par le rapport de force capitalistique, justement, qui laissait les gens tout simplement...
Sur le trottoir,
s'ils ne se donnaient pas la peine de traverser la rue pour trouver un emploi. Donc j'étais assez actif sur ça. Et puis après, je bloquais ma fac contre la loi Heureux, qui voulait augmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers, instaurer la sélection avec Parcoursup, etc. Et puis, diverses actions aussi sur l'écologie. Je fais partie du collectif qui a beaucoup fait parler de lui dans la lutte contre l'autoroute A69.
Eh oui, tu t'es rendu célèbre dans cette bataille. Voilà. Tu es une star des réseaux sociaux, chose que je ne pratique très peu. Mais bon, j'ai vu passer certains de tes posts très ironiques, très fins. Pas mal.
On va dire que le collectif, beaucoup de gens étaient à Toulouse. Alors, comme j'étais un des seuls qui était à Paris pour les études, parce que moi, je viens de Toulouse, hein, ma famille est là-bas. Je me collais souvent à l'exercice des médias et... on apprend à déjouer les arguments et à donner des réponses ironiques, parce que bon, c'est cauchemardesque là. Ils vous bazardent de mensonges et vous savez même pas à quoi répondre. Donc, voilà, et peut-être dire aussi que plus récemment, hein, je me suis beaucoup engagé sur la question de la Palestine avec les mouvements étudiants. Cette action qui m'a coûté un peu cher sur le Tour de France. Où je venais protester contre la présence de l'équipe Israël Première Tech en plein génocide. Voilà. Donc un peu pour le parcours académique et militant, c'est ces enjeux qui m'amènent à cet écrit, et c'est de là que je parle, en tout cas.
Alors, tu produis, on va dire ça comme ça, un essai brillant qui a pour titre « Erreur sur la marchandise ». Mais le sous-titre éclaire tout le monde, ce qu'est la marchandise, c'est la critique libérale du libéralisme. Alors, quand j'ai assisté à la présentation de la collection Les Incisives, dirigée par Vincent Hédin, j'ai vu passer le propos de ton ouvrage et j'ai demandé à ce qu'on m'en envoie un exemplaire. Parce que moi, je considère qu'on ne fait pas suffisamment attention aux ouvrages économiques. Or, l'économie a un poids déterminant dans tout ce qu'on fait dans notre vie, et il faudrait décrypter, et notre rôle à Radio Libertaire, c'est de décrypter les enjeux qui nous menacent. Et là, j'ai compris que cet ouvrage ferait une critique du libéralisme, mais avec les moyens, avec les concepts du libéralisme, justement. Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que tu combats le feu par le feu. On va dire ça comme ça. Alors, j'aimerais que tu présentes ta méthode et les personnes, et que tu présentes les penseurs que tu as convoqués, de Adam Smith à Stuart Mill, en passant par Montesquieu, Locke, Hayek, enfin, la totale.
Oui, c'est vrai, c'est la totale. La totale, toute la marchandise.
Oui, tout à fait.
Eh bien, peut-être dire en remarque liminaire que, en fait, l'idée de ce bouquin vient d'un professeur que j'ai eu, en fait, qui nous a fait... voilà, c'était un séminaire pour apprendre Marx, apprendre à lire Marx en collectif, à le comprendre, que je suivais à l'école d'économie de Paris. Et bon, moi, j'ai découvert Marx assez tard, en fait, hein, dans ma scolarité, il y a 2 ans. Et même si, bon, voilà, je connaissais les grandes bases quand même, mais je suis rentré un peu dans le dur à ce moment-là. Et en fait, j'ai eu une approche un peu, je crois, hein, hétérodoxe. J'ai été amené de manière hétérodoxe à Marx, puisque ce professeur, Facundo Alvaredo, à qui je rends hommage ici, il nous a fait d'abord lire Smith, puis Ricardo, avant de lire Marx, en nous disant que on pouvait vraiment bien comprendre certaines choses en procédant de la sorte.
Et donc, il a raison. Il a raison. Et tu le prouves dans ton ouvrage de façon magistrale. C'est-à-dire que chez Smith, on n'a pas entendu Marx pour parler de l'alignation des travailleurs. Ricardo nuance son propos sur les avantages comparatifs, c'est par rapport aux travailleurs, justement. Donc, quelque part, Marx ne vient pas ex nihilo. Il a lu ses prédécesseurs pour devenir le plus grand économiste du 19e.
Exactement. Et moi, ce qui m'a surpris, en fait, c'est que, bon, je me mets à lire Smith, en bon élève, je fais ce qu'on me demande, mais un peu, j'y vais à reculons. Je me dis, bah, je vais... Et en même temps, j'irai au corps du recteur, je verrai à quel point je suis pas d'accord. Et parce que moi, je grandis, voilà, dans une France du début du 21e, le libéralisme, c'est l'ennemi de la gauche, je me sens beaucoup plus proche du marxisme, je fais partie déjà de mouvements militants, donc j'y vais avec un énorme a priori. Et en fait, je tourne les pages, et bon, là, ça je suis d'accord. Ça aussi, je suis d'accord. Ça aussi. Et puis, j'attends le moment où je ne suis pas d'accord, qui arrive assez tard, en réalité.
Tout à fait. Ça arrive dans la lecture de La richesse des nations. Le premier livre d'Adam Smith, je te laisse donner le titre.
Théorie des sentiments moraux.
Est une brillante nuance avant d'expliquer de la richesse des nations. Or, les libéraux vont directement à La richesse des nations et oublient, escamotent ce premier livre parce qu'il les dérange. Parce que Adam Smith a pointé le cadre et les limites de son d'exposé dans La richesse des nations. Et ça, c'est très important. Donc, on peut être d'accord avec le premier livre et pas être d'accord tout à fait avec tout ce que dit Smith dans la richesse des nations.
Oui, tout à fait. Et puis même au début de La richesse des nations, on sent que, en fait, Smith bute sur une contradiction. Et
l'origine du capitalisme, voilà, qui est quand même due à l'esclavage.
Exactement. Et il a cette phrase qu'avait déjà, en fait, même Smith ne l'invente pas. Hein, même avant, John Locke avait déjà écrit quelque chose de la sorte. On est au 17e siècle, là. Il écrit dans le second traité du gouvernement civil, le travailleur produit la richesse. Et en fait, le raisonnement didactique, mathématique, logique de Locke, presque hypothético-déductif, et il a toujours une argumentation très logique, Locke, il dit en fait, celui qui produit la richesse la produit avec son corps. Mais son corps lui appartient, forcément, notre corps nous appartient. Et donc tout ce qui est produit par le travail, par un corps qui appartient à celui qui travaille, lui appartient aussi.
Voilà.
Et donc,
l'origine de la propriété privée.
Ah, alors là, on voit ça chez Locke, on se dit, mais attends, c'est un petit morceau de marxisme dans Locke quand même. C'est-à-dire, toute la valeur appartient au travailleur. Moi, c'est ça que je lis quand je dis ça.
Il ne devrait pas y avoir d'exploitation du travailleur.
Voilà, et Smith reprend cette idée. Il dit, le travailleur produit tout. Le rentier ne produit rien, il l'écrit. Hein, et il dit, voilà, bon. Et là, on sent la contradiction. Hein, il dit,
tout à fait.
Il dit, bien que le travailleur produise toute la valeur, bon, le rentier, le capitaliste,
la confisque.
Il vient, il prend une partie, et là, Smith justifie ça en une phrase. Ce qui est très étonnant chez Smith, qui d'habitude fait des chapitres d'argumentation théorique très pointus, là, en une phrase, il dit, bon, bah, parce que le capitaliste, il a pris son risque, il a investi, il faut bien qu'il en retire un petit bout. Mais en fait, c'est un aveu de faiblesse, chez Smith, à ce moment-là.
Voilà.
Je
suis d'accord avec toi, il faut le dire, c'est un aveu de faiblesse. Et ça, les économistes libéraux ne veulent pas qu'on le dise. Toi, tu le dis brillamment. Les aveux de faiblesse de tous les économistes libéraux sont exposés dans ton ouvrage. C'est une promenade dans le libéralisme. Et il faut dire que tu expliques bien que le libéralisme, à la base, c'est une lutte contre le totalitarisme. Contre le totalitarisme monarchique et religieux. Donc, c'est quand même fantastique de voir qu'il y a des aveux de faiblesse et que cette théorie qui se veut la libération de l'individu et sa liberté, sa conquête de la liberté, se retourne dans la pratique contre l'individu, en fait, et la société.
Absolument. Et c'est à ça que je voulais revenir, en fait, avec cet ouvrage qui s'adresse, bon, certes, aux libéraux, en disant, regardez, même votre propre héritage intellectuel, vous le maltraitez, en fait, en réalité.
Mais, vous êtes des imposteurs,
plutôt. Oui, oui, tout à fait. Et parce que, bon, voilà, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur la liberté, le libéralisme, l'émancipation individuelle. On ne peut pas arriver aujourd'hui la fleur au fusil comme les libertariens qu'on a sur la scène politique, économique, en disant, voilà, bah, juste moins de régulation, je fais ce que je veux. Enfin, voilà, il y a quand même des gens qui ont réfléchi à ça avec un peu plus de profondeur. Et c'est compliqué pour moi d'accepter qu'on appelle ces deux catégories de personnes, des libéraux, comme si ils regroupaient la même réflexion
et la même école de pensée.
Ah oui, alors qu'absolument pas. Et donc, comme tu le dis très bien, en fait, moi, je voulais revenir à ces racines du libéralisme et montrer que le libéralisme, il advient à un moment où, chez John Locke et Thomas Hobbes, par exemple, c'est pendant les guerres de religion en Angleterre, toute l'Europe, en fait, est au propre guerre de religion à ce moment-là, au XVIIe. Et donc, il fallait une solution pour sortir de la guerre de tous contre tous, de la loi de la jungle, la loi du plus fort. Et donc, ils en viennent à construire une pensée. Alors, Thomas Hobbes, il va trouver une solution dans l'absolutisme. John Locke, il va plutôt prêcher une assemblée législative et un exécutif, etc. Mais en fait, ça va être cette question-là, c'est comment maximiser la liberté individuelle en réduisant le risque que ça dégénère en loi de la jungle. Et moi, je reviens à cette intuition originelle du libéralisme sur laquelle je pense que même à gauche, on peut s'appuyer, en fait, on doit continuer à s'appuyer, de se libérer du joug du pouvoir arbitraire. Et donc, ils en viennent à penser, même s'ils sont très libéraux économiquement, par exemple au 18e, au 19e, des nuances, des réserves, des critiques contre eux-mêmes, en fait. C'est une preuve d'honnêteté intellectuelle, hein, quand Smith émet des réserves sur le libéralisme économique.
Tout à fait. Ils ont le doute.
Exactement.
Alors que les libertariens n'ont aucun doute. Ils ont de l'arrogance. Et ça, c'est dangereux.
Oui, moi, c'est pas simplement pour dire, voilà, les libertariens ne pensent pas exactement comme les classiques. Non, ils pensent l'inverse.
Oui.
Les classiques pensaient lutte contre le pouvoir arbitraire, maximisation de la liberté individuelle sous contrainte que ça dégénère pas en guerre. Et les libertariens aujourd'hui défendent la guerre. Ils défendent la loi du plus fort, explicitement presque.
Pour eux-mêmes, c'est une appropriation de tout pour eux-mêmes.
Voilà, c'est ça.
Et ils vous font passer pour de la liberté, alors que c'est un pur égoïsme. C'est de la privatisation à tout craint.
Voilà, c'est la prédation avec des visions un peu bio-évolutionnistes de la société, c'est-à-dire vous vous en sortirez si vous êtes fort, si vous êtes performant, et puis sinon vous vous ferez effacer par cette sélection naturelle de la structure économique. Donc c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire c'est la situation sociale contre laquelle essayaient de lutter les libéraux originels, les libéraux classiques.
Alors, par exemple, prenons le personnage de Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir. Tous ont lu Locke, Hobbes, Mills, et les Lumières doivent à Locke et à Hobbes. On ne dira jamais assez que nos penseurs des Lumières les ont lus abondamment et sont allés beaucoup plus loin, dans une certaine mesure, par rapport à la définition du contrat. Et je voudrais que tu reviennes sur l'exemple brillant de l'esclavage. Selon qu'on est dans les deux écoles,
utilitaristes, ou du droit naturel,
on arrive à la même notion, qu'il faut être contre l'esclavage, mais pas de la même manière. Et je voudrais que tu l'expliques à nos auditeurs, pour qu'ils voient la nuance.
Oui, en fait, au XVIIe, XVIIIe, puis XIXe, on a des penseurs libéraux qui appartiennent un peu... Il y a deux grandes catégories philosophiques. C'est une classification qui nous vient de Francisco Vergara, hein, défunt il y a quelques années, un brillant historien de la pensée, qui enseignait à l'université de la Sorbonne, d'ailleurs. Qui dit, voilà, il y a deux catégories. Il y a les utilitaristes, d'un côté. Alors, les utilitaristes, ils veulent maximiser le bien-être de la société. Ils s'intéressent à l'utilité, c'est pour ça qu'ils sont utilitaristes, de la liberté. Donc, dans chaque domaine, ils vont se dire, est-ce que la liberté est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Et là, ils vont arbitrer. Le plus souvent, ils arbitrent en faveur de la liberté, c'est pour ça qu'ils sont libéraux. Mais avec cette volonté de maximiser le bien-être de la société. Et de l'autre, on n'a pas... c'est pas une logique utilitariste, c'est une logique plutôt qu'on appelle du droit naturel. Francisco Vergara appelle du droit naturel. C'est-à-dire, là, on va chercher, on va arbitrer les mêmes questions, est-ce que la liberté est bonne ou mauvaise dans chaque domaine? Mais là, la question, ce sera, est-ce que c'est conforme à la justice? Pas est-ce que c'est utile à la société, mais est-ce que c'est conforme à ce qu'ils considèrent être la justice? Alors, bon, certains ont une vision théologique, hein, parce qu'on est à une époque où la religion est un fait total, mais avec une réflexion sur ce que c'est la justice, ce que c'est la bienfaisance, etc. Et donc, par exemple, pour donner cet exemple que je cite dans le livre, l'esclavage, les utilitaristes vont dire, vont avoir cet argument utilitariste de dire, mais regardez, en fait, des gens libres, de toute façon, sont plus productifs, de toute façon, travaillent mieux, se sentent mieux.
Et sont en rendement plus élevé.
En rendement plus élevé, ce qui est un argumentaire un peu, qui peut nous paraître un peu dégueulasse aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui critiquent cette vision qu'on a économique de l'immigration en France, en défendant les sans-papiers, etc., en disant qu'ils contribuent économiquement. Ce à quoi moi j'adhère pas beaucoup, parce que ça contribue à dire que ben, du coup ceux qui sont pas rentables, on les laisse aux frontières.
Sur le côté, tout à fait.
Mais voilà, ils avaient cet argument utilitariste. Alors que les théoriciens du droit naturel vont dire, bon ben, ils vont arriver à l'injustice du contrat d'esclavage en disant, eh ben, par exemple, l'enfant qui est né esclave, il n'a jamais consenti à sa condition. Il n'y a pas eu de contrat, il n'y a rien eu, et donc vient immédiatement la nullité de la situation d'esclavage, puisque elle peut pas être conforme à aucune justice du moment que celui qui est né esclave ou celui qui s'est retrouvé esclave, fait captif, n'a jamais consenti à sa situation. Et donc, c'est pas dans l'ordre naturel des choses, dans leur conception de ce que c'est la justice. Et donc, par deux chemins philosophiques différents, l'utilitarisme ou le droit naturel, ils arrivent à on va dire, l'inanité, le caractère inique de la situation d'esclavage. Et donc, moi, je cite cet exemple pour montrer que, qu'on soit utilitariste ou qu'on soit adepte du droit naturel, quand on est un libéral du 18e et 19e, on n'est pas dans la facilité. On réfléchit avec un édifice éthique. Donc, l'éthique, c'est ce qui tranche le bien ou le mal, philosophique. Et on essaye à chaque fois d'apporter des arguments et de penser contre nous-mêmes en disant, bah, est-ce que je suis pour la liberté dans ce domaine? Est-ce que je suis contre? Et donc, ce questionnement-là...
On sort de sa zone de confort.
Exactement. C'est ce questionnement-là que je ne retrouve pas chez les néolibéraux, chez les libertariens aujourd'hui qui nous entourent et que on appelle à tort, je crois, libéraux.
Alors ça, tu l'expliques très bien. Tu expliques bien que par rapport à la place de l'État, à un moment donné, tu dis la marge entre libéraux et néolibéraux et libertariens, parce que on glisse des néolibéraux aux libertariens très très facilement, c'est la place de l'État. Donc, est-ce que tu peux l'expliquer à nos auditeurs? Parce que l'État, c'est pas neutre chez les libertaires que nous sommes, à Radio Libertaire.
Oui, tout à fait. Alors, chez les libéraux classiques, très rapidement, comme je disais, il y a beaucoup de réserves. Hein. Smith, il comprend très vite que, bon, bah, il y a des tâches que personne ne va accomplir seul, personne ne va financer les infrastructures, va se lever un matin en se disant, je vais financer les infrastructures publiques, les ponts, les routes, etc. Donc, il faut un État pour faire tout ce que les individus ne feront pas eux-mêmes et qui sont... Encore une fois, c'est une logique utilitariste, qui sont bénéfiques au bien-être global de la société.
Tout à fait.
On va perdre cette vision-là avec les néolibéraux au début du XXe. Peut-être un point, on va dire, d'ancrage du néolibéralisme, un acte de naissance, c'est le colloque Lippmann.
Alors, le colloque Lippmann, tu l'expliques bien, il est contre la montée du keynésianisme. Ouais. John Maynard Keynes étant le plus grand économiste du XXe siècle.
Oui, c'est, pour dire très rapidement, une vision économique qui est fondée sur les anticipations rationnelles des agents, la demande, avoir la possibilité dans une économie de pouvoir relancer l'activité par la demande. Il pense les choses en termes de système et pas simplement de politique d'offre et de demande et d'intersection avec un prétendu équilibre économique.
Donc quelque part, les salaires et les ménages ne sont pas une variable d'ajustement chez Keynes.
Ouais.
Et ça, c'est très important. On oublie de le signaler.
Oui, voilà. Keynes, évidemment, chez Keynes, il y a cet équilibre général que peut atteindre l'économie, mais c'est avec des politiques de relance, c'est en faisant attention au chômage qui parfois peut être involontaire, alors que chez les néoclassiques, il y a forcément... on va dire ça crûment, mais de la fainéantise chez les gens qui ne travaillent pas, etc.
Oui, et qui ne veulent pas traverser la route pour trouver du travail.
Exactement. Et donc, il s'agirait simplement de faire marcher l'économie en soutenant l'offre, ce que Keynes contredit. Et donc, en opposition à Keynes, au keynésianisme qui monte suite à la crise de 1929, les néolibéraux vont faire une réunion, le colloque Liebman, en 1938, dans laquelle il y aura des représentants de l'école autrichienne, qui sont très importants dans le néolibéralisme, des Français aussi. Et en fait, ils vont théoriser le renouveau, ce qu'ils appellent le renouveau du libéralisme, en prétendant que le libéralisme a montré ses limites à la fin du 19e, avec ses usines complètement sans normes, ses travails qui durent 12 heures dans la journée, les enfants qui travaillent, des maladies. La droite même à l'Assemblée appelle ça la question sociale, parce que les classes dangereuses, c'est des termes qui sont utilisés à l'époque, et donc il va falloir réguler. Et donc ces néolibéraux ne nient pas ça, et donc produisent une pensée qui va faire sur la question de l'État, j'y viens, c'était ta question, vont produire une pensée qui attribue à l'État le rôle d'organisateur du marché. Donc c'est un État qui n'est pas, comme dans Smith, nécessaire à certaines infrastructures, au bien-être de la société. C'est un État qui n'a pour vocation que de faire respecter les lois du marché, de la concurrence, de la structure économique et la police, la sécurité, entre parenthèses.
Qui est contenu à ses fonctions régaliennes.
Voilà, exactement, un État minimal. Et qui est quand même important chez les néolibéraux. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs la grande contradiction chez Hayek, c'est-à-dire que le marché est à la fois un ordre naturel, spontané, qu'il faudrait
suivre. La main invisible de l'économie.
Et en même temps, il y a besoin d'un État pour le faire respecter, faire des lois de la concurrence, faire l'Organisation mondiale du commerce, et faire respecter toute cette constitution économique pour laquelle personne n'a voté d'ailleurs.
Oui.
Et donc les néolibéraux, c'est ça. Et les libertariens, c'est encore une dégradation supplémentaire pour moi. C'est vraiment là, on passe l'État à la tronçonneuse.
J'avais mis l'ail.
Voilà.
On va faire une pause, Amine, et on va revenir sur les libertariens qui n'ont rien à voir avec les libertaires. On est bien d'accord. Merci.
Y'a qu'à danser, la mer nous donne du poisson. Y'a qu'à danser, les femmes nous donnent des enfants. Y'a qu'à danser, les étoiles nous guident dans l'océan. Y'a qu'à danser, regardez passer le temps. Sur une île du Pacifique, la nuit leur donna deux enfants, un curieux et un sympathique. Qui écoutait passer le temps,
peut-être.
Le premier, toujours en retard. L'autre debout tous les matins. Le premier a pris la guitare. L'autre étudiant politicien. L'inspiré resta au village. Il devint simple musicien. Le pressé parti en voyage pour se faire oublier des siens. L'a étudié 10 ans à l'université, l'a étudié. Comment manager les gens, l'a étudié. Comment marche la planche à billets, l'a fait un petit coup d'état, monter son petit gouvernement. Y'a qu'à danser, la main nous donne du poisson. Y'a qu'à danser, les femmes nous donnent des enfants. Y'a qu'à danser, la canne à sucre nous fait le rhum. Y'a qu'à danser et regarder passer le temps. Sur une île des tropiques, un jour déboula les gendarmes pour nous dire d'un air tragique: dégagez-moi tous ces cabanes, faut pas faire chier, gendarme, faut nous laisser danser. Faut pas faire chier, gendarme, ça c'est la plage où on est né. Le gendarme voulait rien savoir, l'appliquer le règlement, il a sorti son arme, désingue la moitié des gens. Y'a qu'à chanter, y'a qu'à danser, y'a plus personne pour danser. Y'a qu'à jouer, y'a qu'à aimer, y'a plus personne à aimer. Le fréon, le musicien, sa chanson frère politicien, au bureau de ce dernier, se rendit d'un pas décidé. Le pressé, que deviens-tu? Sais-tu qu'au village on nous tue, qu'on fout le feu à nos cabanes, qu'on nous empêche de vivre nu? Mon frérot, mon frérot, comprendre par ma position, mon frérot, mon frérot, je suis chef des institutions. Et vois-tu, cher ami, si les gens savaient d'où je viens, bien vois-tu, cher ami, je ne serai plus politicien. C'est pourquoi, cher monsieur, j'ai donné l'ordre d'évacuer sans attendre dans la nuit les gens de l'île où je suis né. Mon frérot, dit le musicien, tu t'es perdu dans tes papiers. Toi qui n'as jamais si nagé, tes yeux semblent s'emplir de larmes, je m'en vais laisser te noyer. Pacifique, l'amour reprit les deux enfants, l'un heureux de sa musique, l'autre rongé par ses tourments. Y'a qu'à danser, la main donne du poisson. Y'a qu'à danser, les femmes donnent des enfants. Y'a qu'à danser, la canne à sucre nous fait le rhum. Y'a qu'à danser, regardez passer le temps. Y'a qu'à danser, la main nous donne du poisson. Y'a qu'à danser, les femmes nous donnent des enfants. Y'a qu'à danser, les étoiles nous guident dans l'océan. Y'a qu'à danser, regardez passer le temps. Oh,
auditeurs de La Rage Dedans, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Amine Messal pour son livre « Erreur sur la marchandise, critique libérale du libéralisme » chez Rue de l'Échiquier, dans la collection « Les Incisives ». Alors Amine, je voudrais lire un extrait de ton introduction, qui est cet extrait qui est ceci. « Construit comme un petit manuel d'autodéfense et de résistance au malheur qui consiste à mal nommer les choses, ce livre n'a pas d'autre objectif que de démasquer les autocrates, plutocrates, milliardaires, oligarques et autres Pinocchio qui ne défendent que leurs intérêts et croient nous duper lorsqu'ils prétendent agir au nom de la liberté. » Ça, c'est un manifeste. Waouh ! Quand on lit ça après l'introduction, on se dit « Waouh ! On s'accroche ! C'est parti !» Donc, les oligarques, les plutocrates, la différence par rapport, philosophiquement, par rapport aux libéraux.
Alors, il y a une première différence qui est, pour moi, comme je disais, de l'ordre de l'éthique. On avait parlé un petit peu tout à l'heure de la différence entre les utilitaristes, les adeptes du droit naturel. Tous les libéraux avaient un positionnement philosophique et se demandaient pourquoi la liberté allait être bonne ou mauvaise. Les libertariens ne se le demandent plus du tout. Mmh. Et les néolibéraux, plus vraiment non plus. Pour eux, la liberté est défendue pour elle-même. Pas parce qu'elle apporterait des bien-être collectifs à la société en général, plus de prospérité, ni parce qu'elle serait conforme à une idée, une théorie de la justice. Non, la liberté, elle est poursuivie pour elle-même, et je pense que c'est l'écueil majeur dans lequel tombent les libertariens d'un point de vue théorique. Il y a une deuxième différence entre les libertariens et les classiques, c'est que les libertariens ne se demandent plus comment ils vont éviter la guerre de tous contre tous. Ils ne se demandent plus comment la liberté individuelle pourrait dégénérer en système de domination ou de loi du plus fort. Les classiques se le demandaient, les classiques émettaient beaucoup de réserves. Adam Smith a beaucoup de réserves sur le libéralisme économique. John Stuart Mill, qui a pourtant défendu corps et âme la liberté de conscience, d'expression, émet aussi des réserves sur la liberté d'expression. Il cite, à un moment, pour le citer, il dit... la liberté d'expression, oui, mais pas quand elle conduit à inciter à produire quelques méfaits. Donc, même lui, un libéral acharné, émet des réserves sur cette liberté d'expression, avec laquelle on nous bassine hein, pour que les gens de CNews aient le droit de dire toutes les dingueries racistes, climato-sceptiques possibles. donc voilà, c'est des gens qui avaient comme ça une réflexion sur comment on évite la guerre de tous contre tous. Les libertariens non plus. Pour moi, ce sont les deux différences majeures.
Mmh. Parfait. Alors, dans les libéraux, tu n'oublies pas de préciser, et ça c'est important parce que tu es sur Radio Libertaire, et je vais le rappeler, page 83-85, tu n'oublies pas les scories du libéralisme, c'est-à-dire le soutien aux dictatures du XXe siècle, l'écrasement des révoltes ouvrières de 1848, la Commune en 1871, les femmes dans le patriarcat, et la colonisation induite. Donc ça, tu n'oublies pas ça. Mais tu dis qu'il y a le feu au lac et il faut ne pas mal nommer les choses. Et si on veut combattre les libertariens, il faut aller aux sources du libéralisme. Donc il faut critiquer le libéralisme et ramener et nommer un chat et dire que ce sont des oligarques. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans l'information, dans l'économie. Ils sont à la tête d'oligopoles et ils confisquent un certain nombre de choses. Et ce sont des plutocrates. Il n'y a qu'à voir qui les dirige, un certain Donald Trump.
Oui, en fait, moi, c'est aussi pour ça que je suis très content d'être invité chez Radio Libertaire. C'est parce que ce livre, il s'adresse quelque part un peu plus à la gauche qu'aux libéraux. Je m'explique. En fait, je crois qu'une volonté, je veux dire... initiale, presque axiomatique hein, de la gauche, c'est quand même l'émancipation individuelle. Marx part d'un point de vue très opposé aux libéraux classiques parce qu'il part des structures pour arriver à l'individu. D'ailleurs, le premier chapitre, c'est pas l'exploitation au travail, c'est la marchandise.
Oui. Et, donc, d'où ton titre, Erreur sur la marchandise.
J'ai compris ça.
C'est pour ça que dès que je l'ai vu dans la présentation, je me suis dit, waouh, ça va être intéressant à lire. Donc, j'ai demandé à Léa, que je salue, et à Thomas, que je salue aussi, de me l'envoyer. Et comme ils ont de l'humour, Ils ont veillé à ce que je sois dans les premières distribuées par ce petit, par ton ouvrage.
Oui, c'est, je suis très heureux. Tu me vois ravi que le clin d'œil ait été compris par quelqu'un.
Ah bah, il va être compris par tout le monde grâce à l'émission et par les hétérodoxes. Ouais. Je pense à tous ceux qui sont dans l'équipe de notre éditeur, qui est Smolny et qui édite Les Hétérodoxes. Un livre fait par Romaric Godin, notamment.
Ah, super. Voilà. Et c'est vrai que, voilà, bon, les libéraux partent de l'individu, je pense que c'est là leur erreur. Parce que, voilà, dans mon livre, quand même, je critique énormément les néolibéraux et les libertariens sur la base de la pensée classique libérale, c'est vrai. Parce que je trouve qu'elle avait une intuition qu'on peut poursuivre en dépassant les contradictions sur lesquelles elle a buté.
Et pourquoi elle n'a pas combattu le capitalisme elle-même?
Voilà, exactement. C'est-à-dire que la contradiction dont je parle, originelle, c'est celle d'être partie de l'individu et de pas avoir vu qu'il y avait quelque chose d'irréconciliable entre la défense de la liberté individuelle et la propriété privée. Et bon, Marx avait très bien compris ce problème-là. C'est le premier mais qui s'est inspiré, en fait, des pensées classiques. Tiens, Marx, il y a beaucoup de copains qui me disent « Mais t'es devenu libéral avec ce livre ?» Et je dis « Mais non, pas du tout. » Mais Marx lui-même faisait la différence. Postface de la deuxième édition allemande du Capital, il dit ça. Il dit oui. Les libéraux se sont dans deux groupes. Il y a ceux qui vont chez Bastiat et Spencer, dans des logiques un peu bioévolutionnistes, fanatiques du marché, et ceux qui se rangent derrière l'étendard de John Stuart Mill, voilà. Et qui essayent de, il dit qu'il essaye de réconcilier l'irréconciliable. Et cette formule de Marx est superbe parce que en fait, on voit bien que il a saisi vraiment, avec une très grande précision, la contradiction fondamentale des libéraux.
Et pourquoi ils ont échoué?
Voilà, c'est cette contradiction entre la liberté individuelle et la propriété privée.
Et d'ailleurs, tu le dis dans ton livre, la défense de la liberté est-elle compatible avec l'organisation capitaliste du monde? Voilà. Et c'est ta conclusion, mais je laisse les auditeurs lire ton livre, qui vaut la modique somme de 14 euros, chez Rue de l'Échiquier. On peut l'avoir à Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, 3 métros, Oberkampf, Fille du Calvaire et République, pour ceux qui voudraient s'y rendre. Et je veux dire, Marx part de ses libéraux, construit sa propre philosophie, et tu le dis bien dans ton livre, Ricardo, Smith et Marx font de l'économie politique. Les autres ne font rien du tout. Ils ne font que de l'économie, et encore quelle économie? C'est un désastre. Et ça, c'est bien expliqué dans ton livre. C'est de l'économie politique. Donc ça veut dire qu'il s'appuie sur un raisonnement philosophique.
Oui, exactement. Je disais que ce livre s'adressait aussi à la gauche, et surtout, en fait, parce que... Il y a une intuition qu'on doit retrouver de lutte contre l'arbitraire qu'on a déjà, mais pour se réapproprier le concept de liberté et de libéralisme, parce que quand même, ceux qui militent le plus pour la liberté individuelle, je pense que c'est nous, c'est pas ceux qui défendent un ordre capitaliste du monde.
C'est clair.
Et Marx, était un grand exégète de Smith et de Ricardo.
Tout à fait.
Et
on l'a oublié de le dire, ouais, dans les cours sur Marx.
Exactement, c'est pas pour rien. Et aussi dans les cours sur les classiques, où Marx souvent apparaît si brièvement. Mais
parce qu'il fait peur.
Oui,
parce que
sûr.
Lui, il a compris la faille. Il part de la faille et il explique autre chose. Et il donne des grilles de lecture. Alors, qu'on soit marxien ou marxiste, ces grilles de lecture, elles sont toujours d'actualité, quelque part.
Oui, et puis, moi, je voulais donner aussi des outils pour réfléchir sur la question du libéralisme, mais pas qu'à gauche, on soit confiné, si tu veux, dans une pensée qui nous ferait considérer le bloc adverse comme homogène. C'est-à-dire, ce sont tous des libéraux, ou ce sont tous des fachos, etc. Je pense que, en allant disséquer comme ça la matrice théorique de l'ennemi, on arrive à déjà raffiner nos critiques et en plus enrichir nos propres catégories d'analyse. Et j'en veux pour preuve le geste que fait Marx dans le chapitre 1 sur la marchandise, section 3, il parle... En fait, il cite Aristote. C'est très intéressant. Et moi, ça m'a marqué. Alors, c'est quelque chose que je ne dis pas dans le livre. On avait des contraintes de place, mais je peux le dire ici. Je pense que ça...
Oh oui, je t'en prie.
Ça va intéresser les gens qui nous écoutent, je pense. C'est le moment où il fait l'exégèse d'Aristote, où il dit, en fait, Aristote avait déjà pensé une manière, il cherchait une manière d'expliquer l'échange. Il disait, mais pourquoi on échange des choses qui sont extrêmement différentes? Alors, Marx, on connaît la suite, Marx il va chercher la réponse dans une espèce de métrique universelle, là, c'est la force de travail. Voilà. Mais Aristote se pose cette question et bute sur cette question et dit, bon, pour qu'il y ait échange, il faut qu'il y ait égalité. Pour qu'il y ait égalité, il faut qu'il y ait une métrique pour arriver à l'égalité. Il faut qu'il y ait commensurabilité. Il faut qu'on puisse mesurer ces choses-là avec un critère unique et qu'on arrive à l'égalité et qu'on estime que du coup, on puisse échanger des biens. Et Aristote, là, pose une question. Il dit, oui, mais en fait, une telle chose ne peut pas exister puisqu'on ne peut pas trouver une métrique qui rende des choses comme la table ou la maison semblables. Et c'est très intéressant parce que là, Marx, il s'arrête et dit, voilà, Aristote nous dit lui-même où est-ce qu'il y a buté, et moi je vais continuer. Mais je n'en veux pas à Aristote, Marx dit ça, il dit, il ne faut pas en vouloir à Aristote de ne pas avoir dépassé cette... pas avoir trouvé que c'était la force de travail qui permettait la commensurabilité.
Il a eu le mérite de poser la question.
Et s'il n'a pas trouvé, là, Marx dit quelque chose pour moi qui est sublime, il dit, mais c'est parce qu'il vivait dans une société... dans l'Antiquité, où la force de travail qui venait des esclaves n'était pas égale à la force de travail des citoyens. Et donc, ce n'était pas une chose unique, une métrique universelle. Il y avait la force de travail des esclaves qui était donnée, en fait, qui était indue, et celle des citoyens. Et donc, Marx dit, il a bien fallu que la révolution des droits de l'homme, du libéralisme, en 1789, passe par là, pour que moi, je puisse avoir l'idée que la force de travail de tout le monde, déjà vaut la même chose, et ensuite appartient à ceux qui la produisent. Parce que c'est une métrique universelle, parce que les droits de l'homme sont universels. Et donc là, Marx, implicitement, il ne le dit pas, mais avoue que la pensée libérale et la révolution des droits de l'homme a produit un cadre qui lui a permis d'accoucher de sa théorie. Et donc je crois qu'il faut qu'on renoue avec ce geste d'arriver et d'aller voir dans les théories souvent desquelles on se sent éloigné,
il faut sortir de sa zone de confort.
Voilà, c'est ça.
Il faut accepter de prendre chez l'adversaire ce qui est utile à notre débat et à notre combat. Et il faut combattre le feu par le feu. Et tu le fais brillamment.
Voilà, nous permettre d'aller voir, d'aller disséquer, d'aller dire, en fait, c'est à cet endroit-là qu'on n'est pas d'accord avec eux, et c'est à cet endroit-là que vous avez une contradiction fondamentale. Plutôt que de dire, ce sont des libéraux, et point barre, il y a beaucoup d'arguments à gauche et qui sont très pertinents, de dire, mais regardez ce que le libéralisme a produit. Donc c'est un argument conséquentialiste, empirique, mais moi je voulais en produire un autre, plutôt philosophique, en termes d'histoire des idées, en disant, en fait, ils avaient une intuition qu'ils n'ont pas réussi à dépasser, ils avaient une contradiction qu'ils n'ont pas réussi à dépasser, mais l'intuition originelle, de dire on va lutter contre l'arbitraire et on va penser la liberté individuelle à partir de là.
C'est parfait.
Je pense qu'on peut renouer avec.
Tout à fait. Et tu expliques bien qu'il y a une définition de la tyrannie et tu la superposes par rapport à l'économie et l'entreprise. Je laisse les auditeurs acheter ton livre et comprendre. Il y a un mot qui je leur mets sur la piste, organigramme. Voilà, ce qui prouve que ton raisonnement est incroyablement précis, vraiment. Et tu cites un dernier économiste, Lojkin, qui est très peu connu sur tout ce qui est rente, sous-traitance et crédit, qui sont malheureusement des choses sur lesquelles on peut dire que la domination économique s'exerce. Et il faut étudier bien qu'il faut abattre la bonne citadelle. Donc une fois qu'on aura compris tous ces penseurs et tous ces économistes, on pourra décider de quelle citadelle on abat en premier. Et moi, je suis du groupe de ceux qui pensent que la lutte à mener au XXIe siècle, c'est contre les grandes compagnies, les multinationales, qui accaparent qui sont plus importantes que la souveraineté même des États, et qui vont à l'encontre de la souveraineté des États. Et c'est un combat que je lègue aux générations futures. Bon, maintenant, tu me diras, toi, tu donnes le cadre de la réflexion, et j'incite les gens à lire ton livre, « Erreur sur la marchandise, critique libérale du libéralisme » chez Rue de l'Échiquier, dans la collection « Les Incisives ». Et je voudrais que tu m'expliques une phrase que j'ai trouvée très émouvante dans l'introduction à Faïda, Yanel et Thierry, qui m'ont respectivement appris à dire non, à écouter et à chérir, c'est-à-dire à être libre. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Bah, bon, sans plus de suspense, Faïda et Thierry, ce sont mes parents. Et,
voilà.
Et Yanel, c'est mon petit frère.
D'accord.
Moi, ça a été important de mettre une petite phrase pour eux. C'est mon premier livre. Parce que je pense que ça ne vient pas de nulle part. La manière avec laquelle je pense la liberté, avec laquelle j'analyse le monde social. Je viens d'une famille qui est originaire de, voilà, c'est la classe moyenne basse. Hein. Mm-hmm. Moi, quand j'étais au collège, mon papa il travaillait à l'épicerie de nuit. Ma maman elle enchaînait les CDD avec des périodes de chômage. Je me rappelle que quand elle avait un emploi, on allait fêter ça aux courtes pailles. Ça n'existe même plus. C'est,
oui.
C'est des restaurants qui sont sur les stations-service.
Tout à fait. Je connais. Je te connais. J'ai fait ça au XXe siècle. Je suis née au XXe siècle. Donc, comme ta maman.
Et voilà, on avait pas, moi, je n'ai pas du tout ressenti de manque dans mon enfance. J'étais,
mais parce que tes parents se sacrifiaient pour vous éviter le manque.
Ouais, et j'ai
en prenant deux boulots pour ton papa, en tout cas en ce qui concerne.
Ouais, c'est en fait je pense que très vite quand on est enfant on sent beaucoup les choses, hein, même quand elles sont pas verbalisées, et mm-hmm. et je parfois il y a voilà, il y a les silences, et parfois il y a des phrases très cliniques, très très simples en fait. Est-ce que je peux avoir ça pour Noël? Ben non, j'aimerais bien mais on peut pas. Et donc très vite il y a cette sensation de les gens qui sont mes référents en termes de, voilà, de sécurité, de référence, je veux dire, en termes de valeur.
Doivent maximiser le profit, comme on dit en économie. Donc, avec un salaire, des charges, ils doivent essayer de faire ce qu'ils peuvent pour Noël.
Ouais.
Et ça, les enfants l'apprennent très vite.
Oui, et puis surtout, sont tenus par quelque chose qui les dépasse.
Voilà.
Et très vite, ça, on sent l'hétéronomie, en fait. On sent le pouvoir arbitraire qui s'abat, en fait, sur...
Et ça, tu en parles bien de l'hétéronomie.
Ouais,
tu...
ouais.
Voilà.
L'inverse de l'autonomie.
Voilà.
Et donc, le pouvoir qui s'exerce vient de manière extérieure à nous. Voilà. Et donc, c'était important. Voilà, j'ai Faïda qui m'a appris à dire non, parce que c'est ma mère qui... Malgré cette situation, pour moi, allumer un peu le feu, hein, depuis que je suis gosse, parce qu'elle elle s'est jamais laissée faire, en fait. C'est en plus une immigrée tunisienne qui a beaucoup de mérite, hein, moi je trouve, dans la manière avec laquelle elle s'est débrouillée. Et puis, mon père il m'a appris à chérir parce que il a, voilà, simplement parfois, juste en montrant qu'il est déçu, c'est un plus grand apprentissage qu'une engueulade.
Ah ouais.
Et puis mon frère, qui est pas du tout comme moi, qui est pas le même caractère, qui est pas aussi extraverti, mais qui écoute avec une grande finesse, parce que parfois il dit juste une phrase et parfois ça vaut mille mots. Donc je pense que en faisant un peu un mix de ces choses-là, je m'approche un peu de la liberté.
Ouais. Alors, comment, je suis curieuse, comment s'est passée l'écriture de cet essai brillant ? Ça a été long, ça a été douloureux, ça a été difficile, comment ? Un peu plus...
En fait, je suis partie un été avec tous les livres de libéraux classiques.
Ouh là là.
Et je me suis dit, je vais me salir les mains.
Ah oui, pour le coup, c'est le cas.
Et du coup, je...
Tout un été, waouh.
Ouais, et puis j'avançais petit à petit dans mes lectures. Et aussi, bon, il faut le dire, des historiens et des historiennes du libéralisme, hein, j'en cite pas mal.
Oui, notamment les femmes. Élèves de Raymond Aron.
Ouais, Pierre Manant qui était élève de Raymond Aron, aussi Claude Lefort, mais aussi des femmes, c'était important pour moi, parce qu'en fait, à l'époque, les libéraux classiques que je cite sont tous des hommes,
oui.
pour des raisons structurelles, on va dire, historiques.
Et du patriarcat.
Exactement, Donc, bon, il fallait quand même rééquilibrer la balance. C'est un peu fait avec les... Voilà, je cite Justine Lacroix, je cite Florent Sulac, Catherine Audard, une grande spécialiste du libéralisme, de John Rawls, etc. Et donc, je m'appuie, en fait, il y a une forme d'humilité quand même sur les historiens et les historiennes du libéralisme et qui
t'ont montré la voie.
Qui ont des points d'accord quand même avec cet essai, je crois.
Et ah donc, oui, je ne les ai pas tous lus, mais vraiment, ça donne envie de les lire. Et je vais m'y atteler maintenant que j'ai fini ton livre. Et une fois que tu as passé ton été à à compulser et à sortir. Quel a été le fil conducteur pour construire le livre, des trois chapitres?
Eh ben, c'est intéressant parce qu'au moment où j'étais en train de me poser la question de la première phrase, du brouillon, des questions un peu vertigineuses, arrivait ce qui arriva aux États-Unis, en Argentine avec la dérive de Milei,
La tronçonneuse.
La tronçonneuse avec laquelle on va couper l'État. L'État, vous savez, c'est à chaque fois que je débat avec des libéraux, c'est marrant. L'État, source incroyable de pouvoir arbitraire, dès qu'il met une petite régulation sur la qualité de l'eau ou la qualité de l'air. Mais par contre, avoir une petite poignée de financiers qui décide quel secteur va mourir ou quel territoire va vivre, ça, par contre, ça les dérange pas du tout. Donc, c'est une contradiction fondamentale. Donc, il se passait tout ça dans l'actualité et je me suis dit, mais c'est marrant. J'ai l'impression que le concept de liberté, on va en manger à toutes les sauces. Il y a Elon Musk qui ne jure que par ça. Pierre-Edouard Sterrin, notre fameux milliardaire d'extrême droite en France, qui réunit tous les médias.
Sans oublier Bolloré.
Voilà, qui Bolloré, c'est voilà, la liberté d'expression. Pierre-Edouard Sterrin, il a fait une réunion avec tous les médias pour, en vue de 2027 pour conquérir le pouvoir avec l'extrême droite et il a appelé ça le sommet des libertés.
Oui, tout à fait.
Mais vous courez.
Et il avait son projet Périclès. Bolloré donc vient d'obtenir que 115 auteurs quittent Grasset, environ le PDG, Pierre Nora. Donc bravo.
Donc voilà,
où on faisait une campagne en disant on va demander à chaque auteur pourquoi il est chez Bolloré, là on est tranquille. Il y en a 115 qui n'y sont plus. Bravo, voilà, il nous a bien rendu service.
une certaine idée de la liberté, en quelque sorte.
Voilà.
Donc, moi, je vois tout ça dans l'actualité. Je me dis, mais en fait, il faut partir de là, parce que je rends une première version à Vincent Hédin, donc le directeur de la collection, et puis il me dit... Bon, Amine, je sais que tu as du fond, je sais que tu as lu, mais maintenant j'ai besoin que tu nous montres pourquoi cette théorie est importante pour nous aujourd'hui. Et donc là, je me suis dit ok, et je me suis un peu lâché, et là, il m'a libéré en fait de mon carcan un peu académique. Moi, je viens de la recherche, en me disant voilà, tu vas prendre le lecteur par la main et tu vas nous montrer quand tu fais des raisonnements théoriques. Quelle est leur incarnation dans l'actualité politique et médiatique.
Donc, et c'est parfait, c'est très bien fait. Les exemples sont parfaits. Tu commences par la tronçonneuse de Milei. Il paraît qu'elle se vend comme des petits pains.
Ah ouais?
Ben oui, j'ai lu ça dans une dépêche de l'AFP. Elle se vend très bien parce que Milei, la marque, je ne citerai pas, a fait des bénéfices records. C'est incroyable. La plutocratie au sommet de l'État. Bien. Donc, le fil conducteur, c'est la liberté. C'est un essai sur la liberté, la vraie liberté. Donc, c'est erreur sur la marchandise. Critique libérale du libéralisme. Alors, critique libérale, c'est-à-dire de la liberté, en toute liberté, je le précise bien, parce qu'on est sur Radio Liberté, et on est des libertaires. Donc le mot libéral n'a pas le même sens, selon qu'on soit libéraux, néolibéraux, ou libertariens, et libertaires.
Ouais, je crois que, en fait, tu viens de me donner l'idée en le disant comme ça, mais je crois que finalement, mon projet avec ce bouquin, c'était... de prendre l'édifice théorique des libertariens et de le découper à la tronçonneuse.
Eh bien, tu l'as brillamment réussi. Et ce livre en est une parfaite illustration. Donc, je recommande le titre. Amine Messal, erreur sur la marchandise, critique libérale du libéralisme, rue de l'Échiquier, dans la collection Les Incisives, 14 euros. Merci Amine. Et j'attends avec impatience ton deuxième opus.
Merci Mariam.
Je t'en prie. On va remercier Frédéric, sans qui il n'y aurait pas d'émission. Toujours là, toujours souriant, toujours efficace, dans la discrétion absolue. Merci Frédéric. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Merci.